Donc, on va rafraîchir un petit peu quelques bases, quelques pistes sur la vie de chrétien. On sait tous que le jour où on est devenu chrétien, pour certains, il faut se rappeler, c'est il y a très très longtemps, hein, Jackie? Le jour où on est devenu chrétien, il n'y a pas tout qui s'est solutionné d'un claquement de doigts comme ça. C'est pas arrivé comme ça. Mais on sait en même temps, par exemple, quand on écoute Alain, que le jour où on a décidé de suivre Jésus, on mène une vie nouvelle. Vraiment, on part sur de nouvelles bases. Et on va ce matin retravailler un peu quelques bases, quelques fondements de la nouvelle vie de chrétien. Et le titre de la prédication, c'est donc « Vivre une vie de chrétien à la lumière de Jésus ». Parce qu'on peut vivre une vie de chrétien, pas à la lumière et pas avec Jésus, mais il faut vivre une vie de chrétien à la lumière de Jésus. Et donc on va avoir 6 points qui nous montreront comment notre vie peut être, ou je dirais même doit être, transformée. On ne va pas trop parler des droits ou devoirs du chrétien, mais parler de vraiment ce qui nous anime, ce qui nous motive, ce qui nous pousse dans notre vie de chrétien. Et je voudrais dire que pour moi, à l'heure actuelle, dans notre société aujourd'hui, être chrétien, c'est un très grand défi. On peut même dire que c'est une contre-culture parce que ça va vraiment à l'inverse, mais alors vraiment à l'inverse de tous les courants de pensée majoritaires de notre société, en tout cas occidentale, française, moderne. Et je dirais que c'est un acte de résistance. Et parce qu'on est une minorité, en tout cas en France, mais dans pas mal de pays, et on est, qui plus est, une minorité persécutée, comme on le voit spécialement en ce moment en Algérie, où l'État ferme et ferme les églises, et voilà. Donc c'est vraiment une minorité persécutée, mais aussi en France persécutée, mais d'une manière plus subtile. Parfois aussi dans nos places de travail, dans nos mairies. Et j'aime bien aussi, comme dit des fois Sylvain, il dit, il y a plusieurs métiers qui nous sont empêchés en tant que chrétiens, petit à petit. Déjà pour être maire, bah, c'est compliqué. Il faut avoir un adjoint des fois pour déléguer des choses. mais aussi, peut-être demain, être médecin, quand on aura plus cette clause de conscience, ça pourra être compliqué. Bref, tout un tas de choses qui... Prof aussi, des fois, ça, voilà, plein de choses. Donc, voilà, être chrétien, c'est une contre-culture, mais c'est aussi pas mal de choses. On va maintenant se pencher sur ce que nous dit la parole, sur ces 6 points d'une vie de chrétienne, de chrétien mené à la lumière de Jésus, chrétien ou chrétienne. Donc, on va aller dans 1 Pierre 1, du verset 22, 1 Pierre 1, verset 22. Au chapitre 2, verset 8. Donc moi, je vais lire dans la Tob, ça sera peut-être pas forcément pareil. Donc 1 Pierre 1, verset 22. Vous avez purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour pratiquer un amour fraternel sans hypocrisie. Aimez-vous les uns les autres d'un cœur pur avec constance, vous qui avez été engendrés à nouveau par une semence non pas corruptible, mais incorruptible par la parole de Dieu vivante et permanente. Car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Or, cette parole, c'est l'évangile qui vous a été annoncé. Chapitre 2. Rejetez donc toute méchanceté et toute ruse, toute forme d'hypocrisie, d'envie et de médisance. Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole, afin que par lui vous grandissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous-même, comme des pierres vivantes, entrez dans la construction de la maison habitée par l'Esprit pour constituer une sainte communauté sacerdotale, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ, Car on trouve dans l'Écriture, « Voici, je pose en Sion une pierre angulaire choisie et précieuse. À celui qui met en elle sa confiance ne sera pas confondu. À vous donc, les croyants, l'honneur, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre de l'angle et aussi une pierre d'achoppement, un roc qui fait tomber. Ils s'y heurtent parce qu'ils refusent de croire à la parole et c'est à cela qu'ils étaient destinés. » Voilà, donc pas mal de choses, ce texte un petit peu long, on va le décortiquer un peu. Donc, mon premier point, c'est la vie de chrétien est purifiée et régénérée grâce à la vérité. La vie de chrétien est purifiée, régénérée grâce à la vérité. Au début du verset 22, vous avez purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Le texte nous dit... Vous avez purifié vos âmes. Comment ? En obéissant à la vérité. Certaines traductions aussi dans vos Bibles peuvent rajouter « par l'Esprit ». Donc, nous devons avoir cette obéissance à la vérité. Et comme on sait que ce n'est vraiment pas facile, on a besoin de l'aide vraiment de l'Esprit pour s'accrocher à cette vérité. On peut vite avoir ce mécanisme de « on ne dit pas tout ». C'est pas mentir quand on dit pas tout, on dit pas tout juste. Mais vraiment, Jésus nous invite à marcher dans la lumière. Dans Romains aussi, on nous invite, Romains 1, verset 5, et Romains 16, verset 26, on nous invite à plusieurs reprises à être conduits dans l'obéissance de la foi. Vous connaissez aussi la parole de Jésus qui dit « Je suis le chemin ». La vérité est la vie. Et la vérité, donc, on peut dire que c'est une personne, en fait. C'est Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Quand on s'attache à la vérité, on s'attache donc à Jésus. C'est ça qui est bon. Donc, vraiment, en tant que chrétiens, soyons régénérés par cette vérité. C'est la vérité qui nous rend libres, comme nous dit la parole dans Jean 8, au verset 31. Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. Ce verset, vraiment, est le verset « si vous êtes mes disciples », si vous êtes vraiment mes disciples, vous êtes attachés à la parole que je vous ai annoncée et vous connaîtrez la vérité. Cette vérité, elle doit vraiment nous régénérer et elle fait de nous vraiment ces hommes libres. Cherchons vraiment tout à nouveau dans nos vies, dans nos quotidiens de chrétiens, cette vie régénérée et purifiée en marchant vraiment à la lumière de Jésus. Comme parfois Alain nous y encourage souvent, marcher à la lumière de Jésus. Le point numéro 2, c'est le chrétien exerce l'amour fraternel avec constance. Versets 22 à 25. Vous avez purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour pratiquer un amour fraternel sans hypocrisie. Aimez-vous les uns les autres d'un cœur pur. Et avec constance. Aimer les uns les autres d'un cœur pur avec constance. J'aime ce verset, car ici, on ne parle pas forcément de faire des montagnes, des grandes embrassades à droite, à gauche, ou encore d'aimer tout le monde, mais en façade seulement. Non. On ne parle même pas de tolérance ou comme ça. On parle d'aimer avec un cœur pur. Certaines versions aussi dans vos Bibles ont de tout cœur. Là encore, au final, j'aime parce qu'on nous parle de pureté, de simplicité, de tout cœur. Et ce que j'aime encore plus, c'est que ce verset, la parole nous précise avec constance. Ce n'est pas un jour tout et puis un jour rien. Oh, aujourd'hui, ils me saoulent tous. Je vais rentrer chez moi. Non, on nous parle d'aimer les frères et sœurs avec constance. Donc avec constance, ça ne veut pas dire, on ne parle pas d'un niveau, il faut avoir tel niveau ou comme ça. il faut avoir tel niveau d'amour et tout. Et aussi, c'est vrai que dans ce domaine-là, chacun a des aptitudes. D'autres sont hyper sociables. Pour d'autres, c'est plus compliqué de s'ouvrir aux autres. Mais là, on parle de l'amour fraternel et de devoir le faire avec constance. Ça veut dire qu'on peut être en chemin, on peut travailler, mais avec constance. Dans Jean 13, au verset 34, on a ce verset qui nous dit « Je vous donne un commandement nouveau ». Jean 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. » Oui, comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres, encore une fois. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Ça fait une fois les uns les autres, deux fois les uns les autres, trois fois les uns les autres. Ça parle beaucoup des uns des autres. Hein. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est vrai que quand je vais dans une église ou comme ça, ce n'est pas des fois le premier point qu'on reconnaît qu'ils sont chrétiens. Ce n'est pas toujours ça. Mais soyons vraiment les vecteurs de cet amour. Là encore, vraiment, l'amour, c'est le moyen de reconnaître un disciple de Jésus, un moyen universel. Il y a le pélican aussi de la mairie d'Arbois qui est le blason de la ville d'Arbois, pour ceux qui connaissent, on l'a sûrement dit pas mal de fois ici, mais qui dit en latin « Sicis cos diligo », et ça veut dire « Ainsi je fais pour ceux que j'aime », c'est l'image du pélican qui se donne ses entrailles pour nourrir ses enfants, ses petits. Mais vraiment, que nous puissions grandir dans cet amour fraternel, même quand parfois ça peut nous coûter, et moi-même ça me coûte parfois, parce qu'on n'a pas tous le même bagage, on n'a pas tous les mêmes facilités. Mais même quand parfois ça peut nous coûter, partager vraiment cet amour de Jésus avec constance. Le point numéro 3, c'est le chrétien est libéré des mauvaises tendances. Si on lit, toujours dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 1, « Rejetez donc toute méchanceté et toute ruse, toute forme d'hypocrisie, d'envie et de médisance. » Tout un programme que nous ne connaissons pas. Hein. Pas nous quand même. Pas les chrétiens. Non, on peut tous être concernés par ces mauvaises actions, ces mauvaises pensées. Ponctuellement, ça peut arriver même en tant que chrétien ici. Mais vraiment, il y a trois choses importantes que je voudrais dire ce matin. Nous devons déjà rejeter toutes ces mauvaises choses, comme nous dit le verset. Et il est de notre devoir à chacun de pouvoir rejeter et combattre ces choses-là. Mais pour les combattre, il faut savoir les reconnaître. Quand vous êtes à la guerre et qu'il y a l'ennemi en face de vous, quand vous lisez les stratégies de tous les chefs de guerre, les rapports de bataille, tout ça, tout l'art de la guerre, il y a un livre aussi que j'ai lu aussi, ça s'appelle Sun Tzu, l'art de la guerre. Tout ça, l'art de la guerre, en fait, ça consiste à connaître et reconnaître le terrain, l'ennemi, l'état d'esprit de l'ennemi, leur force en présence, l'implantation, leur campement, l'implantation de leur campement, tout ça. Donc nous, il faut se veiller en tant que chrétien de ne pas donner non plus trop de place au diable et à toutes ces mauvaises choses. Mais quand même, il y a quelque chose qui est du bon sens, c'est de pour combattre un ennemi, il faut pouvoir le reconnaître, savoir qui il est, comment il se présente dans ma vie, si j'ai un problème avec telle ou telle chose, quels sont en général, comment ça se présente, quelles sont les situations à risque qui peuvent me toucher. Bref, pour rejeter correctement, comme ils nous ont dit, toute méchanceté, toute ruse dans ce verset, il faut se connaître et reconnaître en soi les choses qui peuvent se pointer parfois dans nos vies. Dans Jacques 1, au verset 21, on nous en courage également à se débarrasser de toutes ces choses-là. Pourquoi ? Pour avoir la place, pour faire de la place à la parole, pour que la parole prenne racine en nous. Jacques 1, verset 21, « Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans vos cœurs, car elle a le pouvoir de vous sauver. » Donc, la parole qui a été plantée dans nos cœurs, vraiment bien plantée, elle a le pouvoir de vous sauver. Donc, attention aussi à ce que ces mauvaises choses ne restent pas, ne s'enracinent pas et ne deviennent pas des tendances. Nous sommes libres, on peut dire vraiment que nous sommes libres de ces choses en Jésus, car quand on est devenu chrétien, on revêt l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité, dont Éphésiens 4, au verset 20, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller, par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Et on retombe, vous avez vu, encore une fois, sur la vérité du point numéro 1. Donc, ce beau verset nous indique que Jésus, que en Jésus, on a vraiment été instruit à laisser, à se dépouiller de ce qui était passé, de notre vie passée, et on est revêtu de cet homme nouveau. Donc, on retombe vraiment sur l'homme nouveau qui est le premier point. L'homme nouveau marche dans la vérité, l'homme nouveau créé de Dieu. Et cette vérité produit la justice et la sainteté. Tout est comme ça hein, dans la Bible, donc tout se recoupe, tout se confirme de verset en verset. Le point numéro 4, c'est un chrétien désire connaître plus la parole et grandir avec Jésus. Donc, versets 2 et 3, « Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole, afin que par lui vous grandissiez pour le salut. » Le verset, il nous encourage à désirer le lait. En grec, « désirer », c'est épiphothéo, épiphothéo, soupirer après, poursuivre avec amour. Et c'est même littéralement désirer l'enracinement. Donc, désirer, épiphothéo, c'est vraiment poursuivre avec amour. On ne peut pas être chrétien et vouloir rester comme as, je suis bien. Non, on doit vouloir désirer le lait. Le chrétien doit avoir ce besoin, ce désir pour ce lait, cette parole. Ce lait est vraiment pur, mes amis. Heureux l'homme qui médite la parole jour et nuit. Regarde Delphine quand je dis ça, parce que c'est une parole qu'elle nous a apportée plusieurs fois. Mais heureux l'homme vraiment qui médite la parole jour et nuit, ce lait est pur, les amis. Et dans 1 Corinthiens, Paul dit aux Corinthiens, 1 Corinthiens verset 2, « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, pas encore. » Et il y a cette étape où on boit du lait, et on peut pas supporter plus. Siloé, là, elle ne peut pas encore prendre une tartiflette, ça ne passe pas encore. Il y a cette étape où on boit le lait, mais on doit avoir quand même cette envie de passer à la nourriture solide. Donc ce midi, c'est barbecue pour tout le monde, pas de lait. Non, je plaisante. Mais la parole nous fait grandir, vraiment aussi. Et c'est une promesse, les amis, cherchons à grandir avec le Seigneur, avec la parole. La Bible, vraiment, ne nous invite pas du tout à rester dans l'immobilisme. Elle nous invite vraiment dans la progression. La constance aussi, on a vu dans l'autre point. La progression, que ce soit la progression du bambou, qui peut grandir de 80 cm en un jour, les plus grosses progressions fulgurantes comme ça, et pour certains c'est comme ça, ou la progression de l'olivier, qui lui, il atteint 10 mètres, 15 mètres au maximum en 4000 ans. Donc là, c'est vraiment, vraiment pas vite. Mais il grandit différemment. Et j'ai regardé un peu, je me suis penché un peu sur les différents oliviers qu'on peut trouver les plus anciens. Et on a deux arbres qui sont estimés à 4000 ans, des oliviers. Il y en a un en Italie qui s'appelle le Grand Patriarche, en Sardaigne, plus précisément, et un autre qui est en Grèce, qui s'appelle l'olivier de Vouvre, et ces deux-là, ils ont 4000 ans environ, on estime. Donc, 15 mètres maximum en 15 ans. C'est pas beaucoup, mais ils progressent. Il me reste encore deux points, mais rassurez-vous, ça va pas être trop long encore, ça va aller vite. Le point numéro 5, c'est un chrétien doit être une pierre vivante dans son église. Chapitre 2, toujours dans 1 Pierre, hein, chapitre 2, versets 4 et 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous-même, comme des pierres vivantes, entrez dans la construction de la maison, habitée par l'Esprit pour constituer une sainte communauté sacerdotale, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Tout un programme, j'aime beaucoup ces versets. Le verset 4 commence par préciser que chaque pierre vivante est choisie, également élue, eklektos en grec, élue, est précieuse devant Dieu. Chacun d'entre nous aujourd'hui est choisi, est précieux. Je permets d'ajouter que vous tous ici, vous êtes donc rares, vous êtes rares. Chaque pierre est vivante, est choisie, eklektos. Pour le verset 5, j'apprécie énormément la traduction de la Tob, vous n'avez peut-être pas celle-là que j'ai lue, qui nous dit « Entrez dans la construction de la maison habitée par l'Esprit pour constituer une sainte communauté sacerdotale. » Je trouve ça beau parce que « Entrez dans la construction », ouais, on va entrer dans la construction d'une maison habitée par l'Esprit. Donc, on ne parle pas de mur, mais entrez dans la construction quand même. On ne parle pas de mur physique, mais on parle quand même d'entrer dans la construction d'une maison habitée par l'Esprit, pour constituer quoi ? Une sainte communauté sacerdotale. Et la Bible nous invite vraiment à entrer, à participer à cette construction par l'Esprit. Une église est une communauté sacerdotale, ça veut dire de prêtres, de sacrificateurs, de toutes choses. Une communauté de prêtres, de personnes élues, eklektos. Pourquoi tout cela? Pourquoi cette maison? Pour offrir des sacrifices spirituels, ce qu'on a fait ce matin, entre autres. On nous donne aussi un peu plus de détails dans Hébreux 13. Là, j'ai pris la version second 21. Hébreux 13, au verset 15, nous dit « Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres, qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Là aussi, on parle encore de sacrifice. Sacrifice pour la communion fraternelle, sacrifice de louange, sacrifice spirituel de louange. faire le bien et s'entraider, encore des sacrifices que Dieu prend plaisir. L'Église, vraiment, le but de l'Église, c'est donc d'offrir ses sacrifices spirituels. C'est donc la louange, la louange continuelle et publique, comme nous dit le verset, ainsi que l'action de grâce, faire le bien, s'entraider, qui peut se manifester par mille manières. Et si je prends dans ma Bible le titre de ce passage, c'est le fondement et la mission de l'Église. C'est vraiment le fondement et la mission de l'Église. C'est les missions de base. Si l'Église ne fait pas ça, elle n'est pas Église. Mais vraiment, ouais, c'est fondement de l'Église. C'est nous, c'est chacun qui participe à la construction de cette maison habitée par l'Esprit. Et encore dans le texte original en grec, cette maison, c'est oikos. C'est l'Église, en fait, c'est oikos, c'est une maison simple, c'est une maison de pierre simple. Et donc, les églises, c'est, en fait, c'est des maisons. Hein. Selon la Bible, c'est oikos, c'est la maison. Ici, c'est la maison de l'espérance. C'est tout simple. J'aime vraiment la simplicité aussi du texte biblique. Une maison oikos, habitée par l'Esprit, tout simplement. Dernier point, sixième et dernier point. Le chrétien met sa confiance en qui ? En Jésus seul. Le chrétien met sa confiance en Jésus seul. Chapitre, toujours dans 1 Pierre, les versets 6, 7, 8. Car on trouve dans l'Écriture, « Voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse, et celui qui met en elle sa confiance ne sera pas confondu. » Jésus est vraiment la pierre angulaire de notre Église. C'est en lui que nous pouvons, que nous devons mettre toute notre confiance. Amen. Vraiment, attention à des fois, à nous-mêmes, mais aussi à certains chrétiens qui ne parlent pas tellement de Jésus, en fait. Nous devons vraiment chérir Jésus, car le texte nous le dit, car Jésus, vraiment, c'est cette pierre précieuse, la pierre angulaire. Le texte nous dit également, si on continue dans les versets après, que c'est la pierre aussi d'achoppement pour les inconvertis, c'est-à-dire un roc qui fait tomber. Ils s'y heurtent car ils refusent de croire à la parole alors qu'ils y étaient destinés. Et à ça, je veux ajouter aussi Luc 2, Luc 2, verset 34, Siméon qui dit de Jésus, « Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. » Alors pourquoi ça? Pourquoi Jésus ferait tomber? Pourquoi ça serait une pierre d'achoppement? Pourquoi ça serait un signe qui provoquerait la contradiction, le relèvement, tout ça, la chute et le relèvement? Je pense que parfois, vraiment, pour chacun de nous, quand on rencontre des difficultés dans nos relations à cause de notre foi, tout ça, avec nos amis, nos chrétiens, toutes sortes de difficultés qui peuvent se passer. Alors, c'est des difficultés que nous avons, mais quelque part, derrière ça aussi, on se heurte, et ils se heurtent aussi, à Jésus. Comme dit ce texte de Luc 2, 34 que j'ai pris, soit ils sont amenés à l'ouverture de croire, donc dans le relèvement, soit ils sont amenés à l'ouverture de croire dans le relèvement, parce, pourquoi le texte nous dit, car ils étaient destinés à croire. Soit ils sont amenés dans la chute, et donc c'est l'endurcissement. Après, voilà, il faut faire quand même la part des choses, hein, nous-mêmes, on n'est pas toujours parfois aussi parfait dans la manière d'apporter Jésus, dans la manière de parler de nos convictions, tout ça. Donc voilà, il faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'on s'oppose à vous que forcément, c'est parce qu'il s'achoppe sur Jésus dont le texte nous parle. Mais c'est une pierre d'achoppement aussi, un roc qui fait tomber, parce que vraiment, voilà, face à Jésus, les gens doivent choisir entre le relèvement ou le relèvement ou la chute, quoi. C'est vraiment, soit les gens croient et ils sont dans le relèvement, soit ils sont amenés dans la chute et ils sont dans l'endurcissement. Vraiment, dans ces situations-là qui peuvent à tous nous arriver, gardons notre confiance en Jésus seul, qui est la pierre angulaire sur laquelle est construite notre Église, Jésus. Donc, voilà, ces 6 points, c'était petit 1, la vie de chrétien est purifiée et régénérée grâce à la vérité. Petit 2, le chrétien exerce l'amour fraternel avec constance. Petit 3, le chrétien est libéré des mauvaises tendances. Petit 4, un chrétien désire connaître plus la parole et grandir avec Jésus. 5, un chrétien doit être une pierre vivante dans son Église. Et 6, le chrétien met sa confiance en Jésus seul. Voilà, je vais juste prier pour terminer ce moment, que vraiment nous soyons encouragés dans ces choses-là, même si voilà, plusieurs d'entre nous sont chrétiens depuis très très longtemps, et probablement que pas mal de choses, c'est des choses qu'on a l'habitude, qu'on sait, mais vraiment que nous puissions être encouragés dans ces choses-là. Seigneur, vraiment, merci parce que ta parole nous encourage à être des chrétiens avec constance, qui nous impliquons dans la parole, dans grandir avec toi, Seigneur. Seigneur, vraiment que nous soyons toujours plus comme toi. Oui, Seigneur, travaille nos cœurs encore. Travaille nos intelligences, nos pensées, Seigneur. Nous avons notre confiance en toi seul, Jésus. Et nous voulons travailler à la construction de cette maison habitée par l'Esprit, Seigneur. Merci pour ta parole. Amen.